Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Semaine mouvementée pour le monde du véhicule électrique. On y revient dans quelques instants avec Gabriel Gélinas, Hugues Gonneau.
Bonjour.
Salut. Bon, toi Hugues, les voitures électriques et les crédits gouvernementaux, changent pas grand-chose à ta vie?
Pas grand-chose à la mienne, mais tu sais, d'ici 10 ans, ça risque d'être un petit peu différent.
Je dis ça parce que tu conduis la même voiture depuis
10 ans.
Depuis 10 ans, puis elle a quoi, 50 000 km?
Non, oh, 34.
34 000 km. C'est vraiment utile, une voiture. Tu sais, quand tu habites dans Rosemont, puis tout se fait plus simple à pied.
Exact.
Oh oui. C'est ça. Bon, évidemment, on va parler de ces crédits-là aujourd'hui parce que le gouvernement, sans surprise, là, a annoncé une baisse des crédits provinciaux qui sont applicables aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Étant fier de dire pour la première fois qu'au Canada, 10 % des véhicules vendus sont électrifiés, soit 100 % électriques ou hybrides rechargeables, on dit être heureux d'avoir contribué à atteindre un sommet sans précédent, puis mais là, la vérité, c'est que le portefeuille, ça fait mal. Faire des chèques de 5000 $ à chaque personne qui se procure un véhicule électrique et à chacun à des personnes qui se sont procurées 3, 4, 5 véhicules électriques en quelques années à peine et qui ont reçu chaque fois 7000 $. J'en ai souvent parlé d'ailleurs dans différentes chroniques. T'achetais trois Chevrolet Bolt puis t'en obtenais une quatrième gratuite. Là, c'était littéralement ça. Là.
Alors, parce qu'il y a des gens qui faisaient la revente de véhicules-là sur d'autres marchés, en Ontario notamment.
Ouais. Et puis en plus, avec la fluctuation des prix de véhicules comme les Tesla, à un certain moment donné, t'achetais pour revendre à profit en Ontario. D'autres fois, tu profitais de la hausse de prix pour voir ta voiture augmenter en valeur. Bon, il y en a que ça a été l'effet contraire aussi. On en a parlé récemment tout avec les Mackie. Mais tout ça pour dire que le marché du véhicule électrique est un marché artificiel de par le fait qu'on a des crédits qui varient tout le temps d'un endroit à l'autre. Écoute, on en parlait il y a quoi, la semaine dernière? L'Alberta qui taxe la voiture électrique pendant que nous autres, on la subventionne à fond la caisse. C'est difficile pour un constructeur automobile. Donc là, on a annoncé cette semaine, messieurs, qu'on allait réduire les crédits provinciaux applicables. Alors, rappelons quels sont-ils. 7000 $ du provincial actuellement. Donc, Québec donne 7000 $ pour un véhicule électrique de moins de 65000 $ à tous ceux qui veulent s'en procurer. À partir du 1er janvier 2026, ça va baisser à 4000. Ensuite, ça sera 1000 $ et finalement...
2025.
Après ça, 2026, 2000, 2027, 1000, et après ça, rien pantou. Et pour les véhicules hybrides rechargeables, actuellement, c'est jusqu'à 5000. Ça sera jusqu'à 2000 l'an prochain, 1000 $ l'automne d'après, puis après ça, c'est terminé. Donc, c'est certain que là, ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est une recrudescence des ventes de ces véhicules-là.
Ah, ça va être une ruée. Ça va être une ruée littéralement.
Ouais.
Et ça va être difficile aussi pour... Ça va dépendre des marques aussi. C'est parce qu'il y a certaines marques où il y a quand même des stocks qui sont disponibles. Il y en a d'autres. T'sais, on pense, par exemple, aux marques coréennes, Hyundai, Kia, Genesis, tout ça. Eux qui ont moins de stocks, d'inventaire de véhicules électriques. Et il y a des gens qui souhaitent avoir, par exemple, une IONIQ 6 ou autre chose d'électrique chez Kia ou chez Hyundai et Genesis. Alors, eux, effectivement, ça va être un problème parce que plein de gens vont vouloir absolument non seulement acheter le véhicule, en prendre possession et surtout l'immatriculer avant la date limite.
Ça, et c'est un point important parce que même si vous achetez un véhicule aujourd'hui, s'il ne vous est pas livré avant le 31 décembre de cette année, vous perdez 3 000 $ de subvention dès le 1er janvier 25.
Ça, donc, ça va faire une pression énorme sur... les gens vont se ruer chez les concessionnaires, vont demander quand est-ce que j'aurai mon véhicule, etc., etc. Puis ils n'ont probablement pas la réponse non plus. Ils vont vivre dans l'incertitude, donc dans l'espoir de pouvoir avoir le modèle qu'ils veulent. Ou alors, vont devoir se tourner carrément vers autre chose qui n'est pas nécessairement leur premier choix, juste pour pouvoir tabler sur cette subvention-là.
Mais moi, j'ai de la misère à comprendre quand même comment tu te dis, bon, pour sauver 3000 pièces, on est prêt à acheter un véhicule dont on ne veut pas.
C'est un point que tu amènes qui est intéressant. Parce que d'une part, tu as un constructeur comme Hyundai qui actuellement te vend une IONIQ 5 à 65 000 $ là, je parle d'une Ultimate, là, bien équipée, financée à un taux quasi usuraire de 7,5%, autour de ça. Fait que les gens se battent pour l'avoir parce que tu as une subvention de 12 000 $ parce que la demande est moins grande que l'offre. Puis les Tesla, c'est la même chose. Ça sort. Mais là, on regarde les produits hot de l'industrie. Mais que va-t-il arriver à des VinFast?
Oui, exact.
Tu sais, des produits, je veux pas dire de second rang, mais tu sais, VinFast, c'est un start-up.
Des produits qui ne sont pas encore prouvés.
Voilà. Ben, tu as besoin de ça. Et là, le truc qui risque d'arriver, c'est que d'une part, tu vas voir les constructeurs automobiles dire, est-ce qu'on baisse le taux de financement de 1 ou 2 % à partir de janvier 25 pour pallier à la perte que les gens vont subir? Fait que tu vas pouvoir vendre le véhicule comme s'il était vendu au prix de. Est-ce qu'on va décider de baisser les prix de certains modèles pour s'ajuster? Puis la beauté de la chose en même temps, c'est que on fait pas ça. On part pas de 5 000 puis on s'en va à zéro d'un coup. Mm-hmm. On le baisse progressivement. Moi, personnellement, si vous m'aviez demandé mon avis, j'aurais dit, vous avez déjà profité d'un crédit gouvernemental, vous n'êtes pas admissible à un second. Mm-hmm. Tu sais, je pense que l'objectif, c'est de convaincre un automobiliste de passer à l'électrique. Une fois qu'il a décidé de l'acheter puis de profiter de la subvention, il est fort à parier qu'il ne retournera pas à l'ancienne formule, en tout cas dans la majorité des cas.
Oui.
Mais là, si tu continues de donner des nananes sans arrêt, c'est là où j'ai un peu de misère. Puis c'est ce qui a fait en sorte que ça nous a coûté une fortune. En même temps, le gouvernement est content, il y avait des objectifs, il voulait mettre des véhicules verts sur la route, parfait, c'est fait. Mais là, tu te retrouves dans une situation qui est quand même un peu délicate. Et il ne faut pas oublier un autre truc. Le budget fédéral s'en vient le mois prochain.
Oui, ça, c'est l'autre histoire.
T'sais, que va-t-on annoncer dans le budget fédéral? Est-ce qu'on va conserver le 5 000 $ alors que Québec baisse ses crédits, alors que l'Alberta vient de lever la main en disant « Hey, moi, je vais les taxer, les véhicules électriques », puis que la Colombie-Britannique est en train de dire « Ouais, ben nous, finalement, n'importe qui gagne en haut de 80 000 là, en Colombie-Britannique, on donne pas de chèque. » qui gagne pas 80 000 en Colombie-Britannique? Enfin, il y a des gens, oui.
Sûrement.
Mais je veux dire, le coût de la vie en Colombie-Britannique est tellement élevé qu'on est en bas du salaire moyen là-bas. Donc, on subventionne pas grand monde au final. Fait que je trouve ça bien intéressant comme stratégie. Et j'ai surtout hâte de voir comment des Mitsubishi qui, dans le plus clair de leur vente, vendent du PHEV actuellement avec de gros crédits, vont composer avec cette baisse, cette hausse de prix-là, devrait-on dire, là, parce que, tu sais, des RAV4 Prime, si c'est attrayant, c'est parce qu'il y a des gros rabais dessus. Alors, si le fédéral et le provincial disent, nous, on retire la moitié du crédit en moins d'un an, ben, ton RAV4 Prime que tu vends à 8 % de taux de financement, il vient te prendre une volée, puis la même chose pour l'Outlander PHEV.
Reste à voir ce que les constructeurs vont faire avec ça. Tu as raison. Ils peuvent jouer sur le taux de financement. Ils peuvent jouer sur un paquet d'autres facteurs. Mm-hmm. Mais c'est clair aussi, je pense, que les constructeurs automobiles ont profité aussi du fait qu'il y avait ces programmes d'incitatifs pour maintenir un prix quand même relativement élevé. Et aussi, il faut dire, ils ne faisaient pas énormément de volume au départ avec les véhicules électriques. Donc, selon moi, ce programme-là, il y a eu du bon, de partir la machine, si on veut, ou de faire en sorte que des consommateurs puissent s'intéresser aux véhicules électriques. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est trop tôt pour justement fermer le robinet graduellement?
Oh non, je pense où est-ce que, pas.
Ben,
personnellement,
voir,
non. T'sais. Je veux dire, ça dépend. Si tu regardes ton portefeuille, c'est certainement pas trop tôt, c'est même trop tard. Mais si tu regardes l'objectif ultime du gouvernement qui veut contrôler l'énergie avec l'hydroélectricité, ben eux, il n'y en aura jamais assez. Fait que t'as un même gouvernement qui fait face à différents enjeux puis qui doit prendre une décision. Puis là, la décision a été prise. Moi, je pense qu'il était temps, parce que financièrement parlant, à un moment donné, il y a des limites. Là. Mais effectivement, que ça risque de changer la donne pour la façon de vendre des véhicules. Tu sais, un véhicule électrique, on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de, je ne vais pas dire de downside, mais de côté un peu plus sombre à l'achat d'un véhicule électrique. Là, on le voit avec le coût des assurances qui explose pour ces véhicules-là. À qui je parlais cette semaine, qui me disait avoir fait une soumission pour une Model 3 de base à 2 700 $ d'assurance quand ils payent 800 présentement pour se promener en Ford Escape. C'est épouvantable.
Et ça, c'est une dépense qui revient année après année aussi. Et
année après année, voilà. L'usure des pneus. Si là, ça, bref, il y a beaucoup. Là, on s'en va ailleurs. Mais tout ça pour dire que les réactions des constructeurs et des concessionnaires dans les prochains mois vont être très intéressantes à suivre.
Puis ce qui va être intéressant, c'est aussi de voir un peu ce qui va se passer en 2025, parce qu'il va y avoir des contre-coups. Là, ça va être la folie en 2024. À partir de 2025, ça va être les vrais contre-coups. Et comment le monde va réagir? Est-ce que le marché de l'électrique va plonger? Est-ce que les objectifs...
Surtout, c'est le fédéral coupe
voilà.
En plus.
C'est ça. Donc là, 2024, on sait que ça va être la panique. 2025, ça va être intéressant à voir.
Parce qu'on a déjà vu ce scénario-là il y a quelques années, souvenez-vous, en Ontario, parce que le gouvernement précédent, avant Ford, premier ministre Ford en Ontario, il y avait des mesures incitatives provinciales pour l'achat d'un véhicule électrique. Le gouvernement Ford, conservateur, il a carrément arrêté ça, tu sais. Et on a vu, tu sais, les ventes plonger, le chuter. Ça a eu ceci de bon.
Le Québec, elle a acheté tous les inventeurs de véhicules électriques de l'autre côté. Ouais.
Ça a eu ceci de bon pour nous, au Québec, de pouvoir avoir plus d'inventaires parce que les ventes en Ontario ont été réduites presque à néant. Ouais. Donc, est-ce qu'on va voir ce genre de phénomène-là qui va se produire au Québec? Ça m'étonnerait, mais une chose est certaine, clairement, là, il va y avoir un ralentissement de ce côté-là.
Oui, absolument. Là, non seulement on a décidé d'arrêter d'offrir de gros rabais aux électromobilistes, donc on ferme les valves un petit peu de ce côté-là, mais en plus, on va aller chercher des taxes supplémentaires à l'automobiliste et d'une façon, honnêtement, que je trouve pas audacieuse, mais moi qui est un gars qui achète beaucoup de véhicules d'occasion dans ma vie, quand j'ai vu cette nouvelle-là sortir, j'ai fait « bon, le party est fini ». C'est-à-dire que je vous explique un peu comment fonctionnent les ventes de véhicules d'occasion entre
particuliers.
Voilà. Parce qu'il faut souligner, à partir du moment où tu achètes d'un commerçant, tu payes les deux taxes.
Voilà.
Mais là, actuellement, si tu achètes une voiture d'un particulier qui est âgée de 10 ans ou moins, à la Société de l'assurance automobile du Québec, on va te taxer une seule taxe selon l'évaluation de ton véhicule basée sur un livre qui s'appelle le Guide Hebdo, dans lequel les valeurs indiquées sont du gros n'importe quoi, parce qu'on a vu des marchés fluctuer, puis des trucs qui ont...
Alors, surtout récemment, avec la pandémie, la valeur des véhicules usagés qui a explosé, etc.
Ben oui, alors moi, je me souviens, l'an dernier, on a eu une Nissan Leaf à rouleau suivant, 2014, qu'on a récupéré pour une bouchée de pain. La voiture nous a pratiquement rien coûté parce que la batterie était défectueuse, mais j'ai quand même dû payer les taxes sur 14 800 sur une Nissan Leaf qui avait 9 ans parce que au livre, elle était ainsi listée. Mais puis pas de façon de, à moins de la faire dévaluer puis de payer pour la faire dévaluer tout ça, ce que j'aurais pu faire là, bon. Mais c'est ça, c'est que ces valeurs-là sont au livre, tu payes avec. Et là, la limite de 10 ans va être repoussée à 14 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plus de, je me souviens pas du chiffre exact, mais il y a plus de 130 000 transactions qui ont été faites où les gens déclaraient acheter une voiture de 2010-11-12 à 1 $.
Il y a eu 200 000 ventes de voitures de plus de 10 ans. OK. Et il y en a, de ce nombre-là, il y en a 70 000 à un prix qui n'est pas de 1 $ et 130 000 à un prix de moins de 1 $. Ça, c'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances dans son allocution.
Je doute honnêtement que ce soit vrai, là, parce que est-ce que 130 000 personnes ont vendu des voitures à 1 $? Je veux dire, ont faim de vendre des voitures à 1 $, je ne suis pas certain, mais enfin bref, effectivement que c'est possible de le faire. Et à partir de je pense pas que c'est maintenant, je pense que c'est à partir de janvier 25, la date, je me souviens pas, mais on va repousser cette limite-là à 14 ans pour l'âge des véhicules. Mm-hmm. Mais si on prend une voiture qui a 14 ans aujourd'hui, c'est-à-dire une Honda Civic de 2010, ben une Honda Civic de 2010, ça peut se vendre 3, 4, 5, 6 000.
Ça dépend de l'état, du millage, de tellement de paramètres.
Si la voiture est listée à 4 000 $, ben tu vas payer 9 % de 4 000 $. Alors qu'en ce moment, ben si tu achètes la voiture à 4 000, ben tu peux la passer à 1 $. C'est pas honnête de le faire, mais en même temps, il n'y a rien qui te l'empêche officiellement. Donc, c'est une façon d'aller chercher des taxes.
Regarde, il y en a qui ont abusé. Maintenant, on paye tous collectivement. Et puis,
en même temps, oui, mais quel autre bien d'occasion
t'achètes un ordinateur d'occasion, tu ne payes pas de taxes. T'achètes un set de chambre d'occasion, tu ne payes pas de taxes. Mais la voiture, elle est revendue 5 fois dans sa vie.
Taxé cinq fois.
Ben oui, moi j'ai acheté le cabanon.
C'est pas mal du tout. Ça,
j'ai acheté le cabanon un jour d'un voisin qui n'avait plus besoin.
Ben voilà.
On l'a déplacé sur roulette, mais le cabanon, ça valait 5000 $. Pas de taxe là-dessus.
Non.
Alors pourquoi j'ai une taxe sur la voiture? Puis là, attends, là, on t'a
parlé. Parce qu'il y a une plaque d'immatriculation. Je vois pas d'autre.
C'est ça. Ben, même qu'il y a d'autres il y a d'autres véhicules motorisés sur lesquels tu ne paieras pas de taxes. Tu vas acheter une remorque, tu ne paieras pas de taxes. C'est pas, tu sais, bon. Non. Alors, c'est vraiment l'automobile qui est comme ça. Et il y a des provinces où tu n'es pas taxé.
Mais ça me paraît logique. Je veux dire, quel objet peut être taxé plusieurs fois dans son existence? À partir du moment où c'est à toi, tu l'as acheté, tu as payé les taxes une fois, c'est parfait, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais après, t'en repayes. C'est quelque chose qui m'a toujours échappé personnellement en termes de logique. Alors après, évidemment, le gouvernement va te dire, nous, on a besoin de cet argent-là, certes. Mais en termes de logique, c'est quand même difficile à expliquer.
Pour pallier à beaucoup d'illogisme, voilà. C'est une autre histoire. Mais malheureusement, le party est fini pour ceux qui voulaient justement jouer sur cette ligne-là et pouvoir...
Et c'est dommage parce que tu sais, il y a probablement beaucoup, par exemple, de familles, tu sais, que la voiture de papa ou maman va être vendue à fiston, c'est sa première auto, puis tout ça. Puis, tu sais, fiston n'a pas beaucoup de sous, ou ta fille, whatever, qui commence à conduire.
Si, entre famille, père, mère, frère, sœur, tu as un formulaire que tu remplis pour être exempt de taxes. Puis c'est vrai même pour une voiture qui a un an.
Là. OK, ça, je ne savais pas.
Alors, si tu vends à ta famille immédiate, ça ne peut pas être ton cousin ou ta grand-mère, soit père, mère, frère, sœur.
OK.
Puis là, je m'excuse parce qu'il y a peut-être d'autres sortes de genres que je ne nomme pas. Mais tout ça pour dire que... parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Mais tout ça pour dire que, effectivement, ça, tu peux être exempté complètement.
OK, parfait.
Et puis, voilà. Mais oui, tous les autres vont y goûter. Sans surprise, on parlait la semaine dernière avec Louis-Philippe des améliorations au Volkswagen ID4. Ben là, Audi a dévoilé cette semaine qu'on apportait les mêmes corrections à ce véhicule-là.
Bon. Un peu logique, les deux véhicules sont élaborés sur la même plateforme MEB du groupe Volkswagen. Et tu sais, ça va être la même chose aussi avec la Porsche Taycan et la Audi RS e-tron GT. Ouais. Plateforme J1, donc ils ont amélioré l'autonomie sur la Taycan, ça va être amélioré sur la Audi. C'est juste une question de quelle marque fait ces annonces-là en premier. Et là, c'est là que tu vois, tu sais, c'est quoi la hiérarchie dans le groupe Volkswagen. Donc clairement, tu sais...
Ouais, le Q4 est un produit de second rang pour eux. L'ID4 est drôlement plus important, voilà. Alors que dans le cas de la Taycan, elle est plus importante que la e-tron.
Voilà.
Oui, tu as absolument raison. Ouais.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans le groupe Volkswagen. Mais une chose est certaine, oui, effectivement, tu vas avoir une bonification de l'autonomie dans le cas du Q4 e-tron, comme on l'a vu pour le ID4. Et puis, ça va être la même chose aussi pour Taycan et la e-tron GT, clairement.
Donc, on va avoir un Q4 propulsé avec plus de puissance, plus d'autonomie. C'est surtout là que l'amélioration se fait, parce qu'au niveau des quatre roues motrices, on gagne quelque chose comme une quinzaine de kilomètres d'autonomie.
Ouais,
alors, c'est pas grand-chose. Mais il faut se mettre à la page aussi, parce que des nouveaux joueurs qui arrivent dans le segment. Volvo, évidemment, qui modifie légèrement ses véhicules pour 2025. Il y aura effectivement BMW qui va être sur le point de dévoiler un véhicule tout électrique dans ce segment-là, qui va venir peut-être faire mal à ces véhicules-là aussi. Alors, on devra en savoir plus d'ici quelques semaines.
Il y a un autre truc que je pense qui est intéressant dans le cas du Q4, c'est le fait qu'ils ont changé le moteur arrière. Tu sais, le moteur arrière est plus performant, plus puissant aussi.
C'est ça.
Donc, en faisant des améliorations du côté, non seulement de la batterie, de l'autonomie, puis de combien de kilowattheures tu peux disposer, mais aussi si tu as un gain d'efficacité des moteurs, que ce soit plus de puissance ou un moteur qui est plus efficace aussi, consomme moins d'énergie. Ça aussi, c'est un pas dans la bonne direction. Mais tu sais, je pense qu'on assiste maintenant un peu de tweaking pour ce qui est des voitures électriques et aussi au niveau des
tweaking, c'est le genre de mot que Hugues dit plus souvent que toi. Là.
Alors, pourquoi?
De peaufinage.
C'est un mot français.
Ouais.
On peaufine un peu aussi les algorithmes pour la gestion des flux d'énergie, ces choses-là,
ouais.
De façon, encore une fois, essayer de rendre les voitures plus efficaces, leur donner un peu plus d'autonomie. Mais c'est ça, c'est des avancées qui sont vraiment pas à pas. Un peu comme quand un constructeur refait une voiture à moteur thermique, tu sais, tout à coup, bof, il y a 15 chevaux de plus qu'avant. Pourtant, le moteur n'est pas nécessairement changé, mais ils ont changé la pression sur l'alimentation du turbo, la gestion électronique du moteur. Donc, on assiste un peu à la même démarche pour ce qui est des voitures électriques. On essaye d'optimiser un peu partout où on peut, là.
Un des rivaux qui risque d'être à surveiller dans les prochaines années, évidemment, je parle du Q4, c'est ce que Rivian a dévoilé la semaine dernière.
Mm-hmm.
Alors, on a présenté le R2, qui n'était pas nécessairement une surprise parce que on jurait que c'est un R1S passé dans la sécheuse, là, littéralement.
7-8e.
Mais dans le cas du R3 et du R3X, c'est un look qui m'a complètement charmé. Un véhicule qui a de l'air peut-être plus petit que ce qu'il est en réalité, mais c'est vraiment un format de VUS façon Volvo C40. Là, on est vraiment dans ce format-là, mais avec un look très boxy, très moderne.
Tu sais à quoi j'ai pensé quand j'ai vu ça? J'ai pensé à la Hyundai Pony surélevée.
Ben en fait,
il y a
plusieurs blogs européens qui l'ont comparé à une Golf 2 Country.
Ouais. Ah oui, ça aussi, pourquoi pas.
Oui, absolument. C'est vraiment... je trouve que ce véhicule-là est totalement réussi sur le plan esthétique et s'y est très, très bien avec l'image de la marque Rivian, ou du moins ce qu'on veut refléter. Parce que Rivian, c'est une marque de véhicules aventuriers. Moi, tu vois, je vois un peu là-dedans l'ancêtre des petits trackers, ce genre de trucs-là.
Ouais.
Mais à la formule moderne, où évidemment, c'est un véhicule à 5 portes, avec des voies larges, avec un empattement plus long. Mais l'espèce de petit côté très carré, très angulaire, très costaud en format de poche, je trouve ça vraiment cute comme produit.
Reste à savoir, tu sais, quand est-ce que ça va arriver sur le marché? Et à quel prix aussi?
C'est ça le problème. C'est ça le problème de marques comme Rivian.
Exactement. Est-ce que cette marque-là va survivre aussi?
Ils font des annonces, mais ils parlent de 2027 pour le R3.
Voilà, c'est ça.
Ils ont le temps de faire la faillite 3 fois, de ressortir du chapitre 11 3 fois.
Mais tu sais aussi, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui autrefois était chez Aston Martin à l'époque où, je ne sais pas si tu te souviens, au Salon d'Auto de Genève, Aston Martin est arrivé avec 5 voitures, 5 concepts. Puis là, le gars, il m'a dit, quand tu vois un constructeur faire ça, là,
Lotus, te souviens de Lotus?
J'étais au Salon de Paris quand ils ont fait ça.
Ouais.
Exactement, Lotus, même chose. Quand tu vois ça, là, c'est parce que ça va pas bien. Ils ont besoin d'attirer des investisseurs.
Mais
non. Okay?
Ouais.
Alors, est-ce que ces scénarios-là qui défi se pointe pour Rivian? Parce que c'est pas, une compagnie...
Est-ce que je peux lever ma main en posant des questions sur VinFast?
Oui, c'est ça. Mais tu comprends? Ce que je veux dire, c'est pas une marque établie. C'est pas le groupe Volkswagen. C'est pas, tu comprends ça?
Non.
C'est pas Tesla en termes de volume de vente non plus.
Mais Rivian, ils ont quand même vendu Rivian 80 000 véhicules à date. Mais c'est pas rien.
C'est pas rien. Mais on s'entend que...
Ouais.
Est-ce que tu as les reins assez solides pour assurer le développement de tous ces modèles-là, leur conformité à tous les standards, et ensuite, pour les vendre?
Oui, mais justement, regarde, les réservations sont déjà ouvertes, donc eux, ils font aussi, eux, ils jouent au maximum, c'est-à-dire on va faire rentrer l'argent.
On a annoncé qu'on commencerait à livrer ces véhicules-là dans le premier trimestre de 2026 comme modèle 2027, que le prix d'entrée serait autour de 45 000 américains, ce qui veut dire quelque chose comme 55-60 ici. C'est certain que ce produit-là, sur un marché comme le Québec, ça peut marcher très fort.
Mais encore une fois, c'est un effet d'annonce pour dans 3 ans. Et là, on commence à prendre l'habitude que les effets d'annonce 3 ans plus tard, ils se transforment en pas du tout ce qu'on avait prévu. On peut parler de GM, du Cybertruck, de toutes sortes de choses.
Et puis, les retards là, pour les voitures électriques, on l'a vu avec Volkswagen, on l'a vu même avec des marques établies qui annonçaient on va arriver à telle date avec tel modèle pour s'apercevoir finalement que c'est un an et demi plus tard.
GM!
Exactement. Fait que, déjà, c'est compliqué pour des marques établies.
Ouais.
C'est encore plus difficile pour une marque naissante, un start-up
en même
finalement,
temps,
qui est Rivian.
Je vais donner le bénéfice du doute à Rivian qui a présenté ces deux...
Je leur souhaite juste
que ça marche. Mais souvenons-nous...
Ils ont l'air plus sérieux que pas mal d'autres. Faut le dire.
Puis Rivian a présenté ses deux véhicules à Los Angeles en 2018. Mm-hmm. T'étais là, je crois, aussi.
Ouais.
Et moi, je me souviens d'avoir été mais vraiment mâchoire décrochée devant cette camionnette-là avec le tunnel de passage. C'était très innovateur quand on a présenté ça. Le président était sur place. Remarque, ça a été la même chose avec Fisker il y a quelques années, avec Henry Fisker, quand il a présenté son Fisker Ocean.
Ouais.
Mais... toujours est-il qu'on avait annoncé une commercialisation en 2020 pour la camionnette Rivian. La COVID a fait que ça a pris un an de plus, mais on a quand même commencé à vendre le véhicule aux États-Unis. Et là, c'est une question de semaine avant qu'il y ait le point de service ou le point de vente qui ouvre au Québec. Donc, on s'installe, on fait ce qu'on a dit de faire. Oui, on a des problèmes financiers comme n'importe quelle start-up dans l'industrie automobile. Lancer une nouvelle marque de véhicules aujourd'hui, ça prend les reins ultra solides. Et ça prend un courage exceptionnel. Puis il y en a plusieurs qui ont essayé qui se sont plantés. Alors, vous vous souvenez d'Imperium Motors il n'y a pas longtemps. Vous vous souvenez de Lordstown aux États-Unis. Il y en a eu plusieurs.
Ah, Nicolas.
C'est ça. Il y en a eu plusieurs. Mais Rivian me semble une entreprise qui, jusqu'à date, livre des véhicules qui ont une certaine qualité. La réputation est déjà pas mal. Bien hâte de voir ce que ça va faire avec ce produit-là.
Je pense que c'est unanime qu'on leur souhaite que les véhicules arrivent, mais il y a toujours une petite réticence.
Entre-temps, il y aura le R2 aussi qui va arriver, qui, lui, est dans un format plus traditionnel et qui risque de connaître un succès aux États-Unis aussi. Alors, à suivre pour le R3, mais moi, ça a été mon petit coup de cœur de la semaine. Et dommage qu'on ne puisse pas profiter des pleins crédits en 2027.
La boucle est bouclée.
Voilà.